session de théologie par le Père Jean-Marie Arimon, le 20 mars 1998, première conférence.
Je salue chacun en vous disant ma joie d'être ici et quel honneur d'enseigner dans ce saint lieu. Et surtout, je vous parlais du sujet que l'on va essayer d'aborder ensemble. Alors, dans un premier temps, j'aimerais définir, pour qu'il n'y ait pas confusion, le genre. Autrement dit, nous sommes dans une session de théologie, donc ce n'est pas une retraite, ce n'est pas un lieu où on vient immédiatement chercher la nourriture de son oraison, donc n'attendez pas ça de moi, je crois que c'est important. Et ça signifie quoi en plus? Ça veut dire que ça réclame de chacun d'entre vous un petit travail. Voilà, donc c'est pas du consommable immédiatement. Si vous voulez tirer profit de ce qu'on fera ensemble, hein, vous verrez, on essaiera d'aborder un texte compliqué et délicat qui s'appelle Lumen Gentium dans le Concile Vatican II. Il est clair que si je suis le seul à le lire, et si dès maintenant vous ne commencez pas à lire ce texte, je pense que ce que je ferai ne portera pas le fruit qu'il devrait porter. Sur ce, bon travail. Alors, en guise d'introduction, pour situer un petit peu la démarche du théologien au regard de l'Église, la première interrogation qu'on a à se poser, c'est l'Église, qu'est-ce que c'est? On a une expérience du mode de fonctionnement de l'Église. C'est ce que l'on voit à travers les différents mouvements qui sont inspirés de l'Église catholique. C'est ce qu'on voit à travers les paroisses. Ce qu'on voit aussi à travers une congrégation religieuse. Donc on voit à peu près comment ça fonctionne. Et plus on est à l'intérieur de l'Église, moins on sait ce que c'est que l'Église. Donc il est important de se demander, mais l'Église, qu'est-ce que c'est? La réponse, on ne va pas la sortir de notre chapeau. On ne va pas la méditer sur à partir de rien. La vraie réponse, on l'aura à travers la révélation. Donc ça, je crois qu'il faut être clair. Pour nous découvrir ce qu'est l'Église, c'est d'abord de se mettre à l'écoute de la révélation. Alors, le père Marie-Dominique, lui, regardera les grandes analogies de l'Église. Vous voyez, c'est les deux grandes analogies que l'on voit chez saint Jean et chez saint Paul. L'Église, c'est un corps. L'Église, c'est une vigne. Il y a encore d'autres analogies, mais je pense qu'il développera principalement celle-ci. Donc je ne le ferai pas, mais je voudrais d'abord souligner que la révélation nous enseigne que l'Église, c'est avant tout un vivant. Et ce vivant, il est complexe. Donc je ne peux pas circonscrire ce qu'est l'Église d'une façon simple ou d'une façon triviale. Il est important de voir que pour découvrir l'Église comme mystère, on va fonctionner par ce qu'on appelle des analogies. Autrement dit, différents points de vue vont m'éclairer la même réalité. Alors pour ceux qui... pour vous faire comprendre un petit peu cette démarche, c'est celle que l'on ferait, par exemple, quand on visite une église romane. Et si vous avez le temps, dimanche après-midi, après la session, allez donc visiter Brancion. Et Brancion, c'est le type même de l'église romane qui a une taille relativement humaine, relativement petite, et que l'on peut voir sous tous les angles, et à chaque fois, on découvre quelque chose de nouveau. Et quand vous êtes devant le porche, et quand vous êtes devant le chevet, c'est quelque chose de complètement différent. Quand vous êtes à l'intérieur, en regardant le cœur ou en regardant, j'allais dire, vers la sortie, c'est quelque chose de complètement différent. Donc vous voyez, c'est important de voir que notre intelligence, elle voudrait se nourrir de quelque chose de simple et de fondamental. Pour certaines réalités, ce n'est pas possible. Je ne peux l'aborder qu'en la regardant sous différents points de vue. Et les deux points de vue fondamentaux, hein, alors ça, ce ne sera pas du tout mon propos, c'est l'analogie du corps. L'Église est un corps, dont nous sommes membres et le Christ est la tête, l'Église est une vigne qui porte du fruit et que Dieu éduque. Alors, la démarche que je vais essayer de suivre avec vous, c'est celle que m'a inspirée la lecture du Concile Vatican II, Lumen Gentium. Où il nous est donné trois grands axes de recherche sur l'Église. Le premier, c'est l'Église est un mystère. Je vais y venir tout de suite. Le second, c'est l'Église est le peuple de Dieu. Et le troisième, c'est l'Église est une communauté organique. Il y a un organigramme dans l'Église. Et il est important de comprendre que nous avons à tenir ces différents aspects pour comprendre ce qu'est l'Église. Si j'ai un tempérament un peu activiste et autoritaire, je vais regarder de l'Église uniquement sa fonction hiérarchique. Voilà, l'Église, c'est le pape et les évêques. Et puis les prêtres. Puis après, les tout-petits qui sont en dessous, c'est les fidèles baptisés. Il y a un intermédiaire, c'est celui qui a fait profession religieuse. On ne le sait plus très bien où on va le mettre. Vous voyez, et il est clair que très souvent, mon regard sur l'Église correspond à ma structure intellectuelle ou à mon mode de pensée. Si j'ai une intériorité tellement intériorisante que le spirituel domine tout chez moi, je risque de regarder l'Église uniquement comme une réalité, sorte de réalité incréée qui descend du ciel. Et c'est un grand mystère, on ne sait pas tout à fait ce que c'est, mais en tout cas ça existe parce que Jésus l'a dit. Vous voyez, on ne peut pas non plus se satisfaire d'un tel regard. Ou sinon, si j'ai la dimension sociale et relationnelle très développée, alors là, c'est extraordinaire, l'Église, c'est on est ensemble et on fait Église. Mais c'est important de voir qu'on a tous à avoir un dépassement de notre sensibilité. Pour rentrer dans la lumière de l'Évangile, hein, qui nous fait découvrir la complexité du mystère de l'Église. Alors posez-vous la question, hein, immédiatement, comment je pense l'Église ? Alors en plus, ça se complique du fait que dans l'Église, il y a des rapports humains. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les rapports humains, c'est toujours compliqué. Parce que, en plus, un rapport humain dans l'autorité, alors là, ça se complique encore plus. Et c'est extraordinaire, dans une paroisse, de voir le rapport des paroissiens au curé. Et selon la mentalité des gens, ça se passe bien ou ça se passe très mal, de toute façon. Dans la vie religieuse, on voit la même chose. Vous voyez, je crois que c'est important de voir que réfléchir sur la communauté humaine, c'est quelque chose de très complexe. Réfléchir sur l'Église, ça l'est encore plus, parce que le principe de cette communauté, il m'est donné par Dieu. Le mode de vivre dans cette communauté, il m'est donné par Dieu. Et donc c'est quelque chose qui ne m'est pas connaturel. Et du fait que ce n'est pas connaturel, il y a une conversion nécessaire de mon mode d'être. Alors rapidement, je vais développer avec vous le regard premier et fondamental qu'on pourrait avoir sur l'Église, c'est l'Église comme mystère. Et fondamentalement, ça nécessite de chacun d'entre nous de nous mettre dans l'intention divine au regard de l'Église. Et l'intention divine, quelle est-elle ? C'est que le Père veut sauver tous les hommes. Ça, c'est essentiel à comprendre. Vous voyez, l'Église, c'est d'abord un mystère de salut. Le dessein constant de toute l'histoire humaine, c'est la bienveillance de Dieu qui donne à l'homme le salut. Et si ce principe n'est pas inscrit en nous, mais pas simplement dans notre tête, hein, vous voyez, mais jusqu'au le moindre espace de notre existence, je ne peux absolument plus comprendre le mystère de l'Église. Si le salut n'est pas présent, vous voyez, on a un cas, on a deux cas extraordinaires actuellement. Le premier, c'est la position de Rome à l'égard de la Shoah. Vous n'êtes pas sans savoir que les journaux en parlent actuellement. Autrement dit, Rome est invitée par le monde politico-médiatique et ainsi de suite à prendre position sur un fait de l'histoire. Et le fait que la réponse de Rome ne se situe pas du tout au niveau de l'histoire, mais se situe au niveau de l'économie divine, c'est-à-dire l'économie de Dieu sur le peuple d'Israël, ça déroute complètement le regard médiatique. Le deuxième aspect aussi extraordinaire, c'est celui que l'on a, bon, qui paraît-il maintenant est réglé, avec cette fameuse publicité Volkswagen. Certains sont peut-être au courant. Vous voyez, on a utilisé la représentation de la scène eucharistique pour vendre une voiture. Voilà, vous voyez, c'est quand même un petit peu... Et la même chose, on rentre dans un rapport de force entre une communauté humaine qui utilise un support complètement vidé de son sens, et puis le sens véritable que donne l'Église au mystère de la scène. C'est pas simplement représentatif. Et à chaque fois, il y a un décalage. Pourquoi ? Parce que le souci de l'Église, c'est avant tout, à travers ce qu'elle enseigne, d'être porteuse de salut. Et le souci de la communauté humaine, quel est-il ? Ben, c'est le bien commun immédiat. Alors, ça c'est vrai par rapport à ce que l'on voit autour de nous, mais c'est d'autant plus vrai dans ce que nous vivons personnellement. Vous voyez, souvent notre rapport à l'Église, quel est-il ? C'est un rapport de consumérisme. Moi je suis frappé, hein, c'est le résultat d'une charge pastorale que j'ai depuis quelque temps, mais de voir que les trois quarts des gens viennent consommer dans l'Église. L'Église c'est une sorte de supermarché. Et puis d'ailleurs, même ici, hein, les trois quarts des gens viennent consommer avis aux amateurs. Vous voyez, autrement dit, on sort, bon, on a un petit week-end de libre, bon, et pourquoi pas, on va faire... Vous voyez, c'est... quand tout à l'heure je parlais de genre, c'est-à-dire un travail sur une introduction à la théologie sur l'Église, ça nécessite de vouloir être formé, et non pas simplement de glousser parce que la parole qu'on nous dit nous plaît. Vous voyez, et on est complètement face à cette attitude. Vous voyez, moi, c'est l'expérience que je constate, hein, c'est bien souvent, on considère une communauté humaine comme le lieu où on est bien. L'Église, ce n'est pas une communauté humaine dans laquelle on est bien. L'Église, c'est avant tout le mystère du salut. Et c'est une des premières affirmations de la constitution dogmatique sur l'Église, Lumen Gentium, c'est que l'Église, c'est le sacrement du salut. Alors, si l'Église, c'est le sacrement du salut... Si l'Église, c'est découvrir le Père qui nous sauve, ça signifie pour nous rentrer dans l'économie de la très sainte Trinité. Ça aussi, c'est important. C'est trinitaire, l'Église. Il y a un rapport fondamental entre la très sainte Trinité et le mystère de l'Église. Autrement dit, l'Église se constitue à travers les missions visibles des personnes divines. Le Père en est l'origine, le Fils est l'envoyé, et l'Esprit Saint est le sanctificateur. Alors j'invite, hein, pour les frères, c'est un sujet à mon avis très intéressant, et de faire le rapport entre la question 43 de la Prima Pars, et à partir de là, réfléchir sur la constitution de l'Église. Vous verrez, il y a des choses assez étonnantes. Bon, je ne vais pas faire ça avec vous, je ne veux pas compliquer les choses. Mais ça, je crois que c'est important de voir que, avant tout, l'Église est pour nous le reflet de la très sainte Trinité. Il est clair que l'analogie première qui nous vient, c'est l'Église corps mystique du Christ. Mais ultimement, voyez, si l'Église est corps mystique du Christ, c'est pour nous faire vivre de la très sainte Trinité. Alors, Après, le deuxième aspect qui me semble important hein, sur l'Église comme mystère, c'est le sens du royaume de Dieu. L'Église, c'est le royaume de Dieu. Ce que Jésus vient établir. Là, reprenons toutes les analogies du royaume hein, qui sont dans les évangiles synoptiques. Et ce royaume, il est là pour me faire comprendre un petit peu comment l'Église est dans le monde. Il est clair qu'une lecture attentive, hein, ça je vous le donne comme conclusion, mais essayez de le découvrir comme le fruit d'une lecture de l'Évangile. Vous voyez, le royaume tel que l'enseigne Jésus, ben, c'est Jésus. Mais ce n'est pas une entité abstraite. Mais le royaume, c'est le Christ. Et la constitution du royaume, c'est l'incorporation de chacun des apôtres à la personne de Jésus. Alors, on regardera ce que signifie cette incorporation au cours de cette session. Mais ce qui est important, c'est de voir que le royaume de Dieu, c'est la présence de Jésus à travers le mystère de l'incarnation, en vue du mystère de la rédemption. Et ça doit introduire une réalité qui, là aussi, est importante, sur laquelle on reviendra, c'est la dimension visible et invisible du royaume. Que l'on retrouve à travers une analyse du mystère de l'Église. Le royaume, c'est déjà quelque chose de visible, mais ce visible me renvoie à une réalité invisible. Et chose importante, qu'est-ce qui est visible hein, c'est Jésus, c'est pas nous. Parce que vous voyez, il suffit de vivre 10 minutes dans une communauté chrétienne pour se dire, bon, il y a un ramassis de toutes les... J'allais dire les tares, mais ce n'en est pas loin, de l'humanité, parce que nous sommes tous blessés par le péché originel. Vous voyez, alors ça va de la relation de haine à la relation de domination, à la relation de pouvoir, d'orgueil. Vous voyez, c'est le cœur de l'homme, ça, donc il faut être lucide. Ce qui est signifiant, ce n'est pas le cœur de l'homme. Ce qui est signifiant, c'est Jésus. Vous voyez, une petite nuance quand même. Et savoir la véritable signification du royaume. Ben, c'est la présence du Christ. Et la véritable véritable visibilité, c'est le mystère de l'incarnation. Donc on peut comprendre que la visibilité de l'Église, elle doit se trouver dans le fait que le Christ est présent. Alors, on développera hein, tous ces aspects. N'oubliez pas, là, actuellement, je suis en train de vous introduire à tous les points que je développerai tout à l'heure, du moins au cours de... Donc, rassurez-vous, là, c'est simplement le menu, vous allez bientôt le goûter. Alors voilà, ça c'est à peu près les grands axes de ce que j'appelle l'Église mystère. Deuxième aspect, c'est le peuple de Dieu. Que signifie pour nous le fait que Dieu se fait de l'humanité son peuple ? Et le premier axe de réflexion, c'est pour qu'il y ait peuple, il faut qu'il y ait point commun. Alors le point commun, ça peut être le genre humain. Le point commun, ça peut être la nation, les frontières, la culture. Ça peut être une même spiritualité. Et là, extraordinaire, le point commun du peuple de Dieu, c'est Dieu. Vous voyez, ça change les données quand même. Autrement dit, l'appartenance ne va pas se prendre en référence à mon voisin, comme un club. Telle la notion de club ou la notion de groupe d'amis. C'est extraordinaire, chaque fois qu'on parle ensemble, on est toujours d'accord. Ça, on est vraiment des amis. Vous voyez, bon voilà, ça c'est une sorte d'appartenance. Vous voyez, réfléchissez deux minutes à ça. Hein. Vous voyez, dans l'Église, mon point commun c'est Dieu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est pas le fait que je sois d'accord avec l'autre ou que je me sente bien avec l'autre. C'est par le haut que ça se prend. Alors là, je vous renvoie à l'analogie de saint Paul hein, sur le premier et le second Adam. Et l'unité du genre humain, fondamentalement, c'est celle qui est faite en Adam. Il est le prince de l'humanité, le principe de l'humanité, le premier. Donc en lui, on est tous unis dans la nature humaine. Par l'incarnation, nous sommes unis dans le Christ. Donc vous voyez, la constitution de la communauté humaine que va représenter l'Église est beaucoup plus vaste que ce que l'on peut imaginer. Alors je vous parlerai, un des grands inspirateurs de la théologie ecclésiale au 7e siècle, hein, fin 7e siècle, qui est Grégoire le Grand, a des démonstrations extraordinaires sur le mystère de l'Église. Et sur le sens de la communion du genre humain avec le Christ. Le troisième aspect, c'est la hiérarchie. J'utilise ce terme parce que c'est celui qui est le plus parlant. C'est-à-dire la dimension organique de l'Église. L'Église, c'est une communauté structurée. Et cette structure, elle se reçoit d'en haut. Vous voyez, là, immédiatement, on rentre dans tous les conflits que l'on peut voir, principalement dans les pays germanophones. Et de temps en temps, dans le site internet Parthénia 2000, vous irez voir un jour, si vous avez le temps. Ne perdez pas trop de temps, mais vous pourrez aller voir. Vous voyez, et autrement dit, c'est le modèle par lequel je vais comprendre la hiérarchie, c'est le modèle qui s'impose à moi selon mon expérience. Et quel est celui qui s'impose à moi selon l'expérience? Ben, c'est la tyrannie de la démocratie. Mais je dis bien la tyrannie de la démocratie. Ce qu'on voit aujourd'hui actuellement dans le monde dans lequel nous sommes. Et donc c'est ça le modèle. Donc puisque c'est le modèle, l'Église doit être structurée de cette façon. Ce que représente la communauté politique telle que je la vois aujourd'hui, ben c'est ce qui va être inspirateur de la structure de l'Église. Vous voyez, là aussi, hein, une sacrée conversion pour penser autrement que ce qu'il faut penser. Le médiatiquement correct ou le politiquement correct. Si on comprend ça, on dépasse tout l'aspect conflictuel, vous voyez. La dimension organique de l'Église, elle n'est ni de gauche ni de droite. Hein. Ça, c'est des schémas affectifs dans lesquels nous nous mettons pour nous faire du bien ou nous faire du mal. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Vous voyez, elle est structurée par Dieu. Vous comprenez bien que si elle est structurée par Dieu, le fait de recevoir la hiérarchie de l'Église aura une pertinence pour moi du fait de mon rapport à Dieu, et non pas de mon rapport avec mon curé. Parce que si mon curé est caractériel, vous comprenez que on va voir ailleurs. Vous voyez, c'est là la complexité aussi de la dimension hiérarchique de l'Église. Vous voyez, elle ne peut pas partir de l'expérience que j'ai, de l'exercice de l'autorité dans l'Église. Elle doit partir de ma communion avec Dieu. Et c'est d'autant plus difficile. Parce que s'il n'y a pas un minimum de vie spirituelle, Mais je vais regarder l'Église. Vous voyez, alors, les grands termes journalistiques, c'est l'Église, c'est une théocratie. L'Église, c'est absolument pas une théocratie. Vous voyez, donc on va faire le parallèle entre le gouvernement de l'Église et puis une théocratie de type musulman. Et on va voir dans le détail qu'il y a quand même des grosses différences. Alors, maintenant, pour terminer cette introduction, je vais faire le travail d'un prophète, c'est-à-dire casser les idoles. Cela a une double finalité. Premièrement, vous évitez, pour les frères, j'espère que ça ne posera pas de problème, de vous éviter de penser d'une façon dialectique. Et vous allez voir, on pense toujours d'une façon dialectique. Le monde est tellement comme ça que de toute façon, c'est immédiatement nos schémas de pensée. Donc mon premier but, c'est de casser, vous voyez, la dialectique de notre intelligence, surtout par rapport à l'Église. Et puis si ce premier point est fait, la deuxième finalité que je me donne, c'est de faire en sorte que vous ayez une intelligence qui émerge et qui devienne analogique. Voilà, c'est le double dessin que je me propose. Ambitieux, mais je suis sûr que je vais y arriver. Avec votre coopération. Alors, pour ça, je vais regarder quatre modèles qui nous disent quelque chose de l'Église, dans lequel trop souvent on identifie l'Église, et concrètement ce qui nous empêche aussi bien de comprendre ce qu'est l'Église, et donc de vivre du mystère de l'Église. Alors ces modèles, hein, où j'ai des noms qui ne sont pas très harmonieux, excusez-moi. C'est, le premier modèle, c'est ce que j'appellerais le modèle pyramidal. Second modèle, c'est le modèle communionnel. Le troisième, c'est le modèle individuel. Et le quatrième modèle, c'est le modèle dualiste. Alors, quand je dis modèle pyramidal, j'entends la chose suivante. Vous voyez, vous avez Dieu, vous avez le Christ. Qu'est-ce qu'on va mettre en dessous? Les apôtres. Après, on va mettre le pape. Les évêques, puis voilà, moi, être lambda, je suis un baptisé, je suis un être lambda, vous voyez. Puis voilà, l'Église, c'est un peu ça. Autrement dit, c'est le lieu dans lequel je découvre des couches. La couche supérieure, bien sûr, c'est la Très Sainte Trinité. Et puis, vous voyez, comme une sorte de démiurge qui se décante au fur et à mesure pour trouver le démon qui est en moi. C'est référence à Platon. Autrement dit, oui, ce modèle, c'est un groupe qui se constitue à travers une succession historique. Et chose importante, c'est de voir que l'Église nous dit des choses étonnantes sur ce modèle. Je vais vous citer quelques textes. Premièrement, c'est un catéchisme romain de 1841. Écoutez bien, ne bondissez pas. L'Église, comme toute société, est composée de ceux qui commandent et de ceux qui obéissent. Et j'espère que vous avez convaincu. Non ? Freud n'était pas né, hein ? Si, il était né. Vous voyez, autrement dit, bon voilà. Après, j'ai Léon XIII, 1885. Si vous voulez aller voir, c'est dans les Actes Sedis. C'est sa lettre Epistola tua. Alors, je vous lis ce texte extraordinaire. Au seul pasteur, Il a été donné tout pouvoir d'enseigner, de juger, de diriger. Aux fidèles, il a été imposé le devoir de suivre leur enseignement, de se soumettre avec fidélité à leur jugement et de se laisser par eux gouverner, corriger, conduire au salut. C'est dans cette subordination et dépendance que s'établit l'ordre et la vie de l'Église. Et c'est, ça choque nos oreilles, mais je suis désolé, c'est comme un souverain pontife qui dit ça. Donc vous voyez, est-ce que c'est complètement... complètement, alors bien sûr, c'est la fin du 19e, on ne peut pas... Ils n'avaient rien compris. Vous voyez, donc autrement dit... Comment je peux me situer dans un tel regard sur l'Église ? Là, on aurait tendance à dire, bon ben voilà, je suis dans une sorte de cléricalisme en avant. Et puis on voit bien maintenant, le cléricalisme, c'est quelque chose qui est encore dans le cœur des prêtres, mais en tout cas, c'est plus du tout dans le cœur des fidèles. Ça, c'est évident. Vous voyez, le modèle de société dans lequel on s'établit, c'est sûrement pas un modèle de subordination. Cependant, l'Église me donne cette réalité de l'Église. C'est quand même étonnant. Donc j'ai quelque chose à recevoir dans une telle manière de regarder l'Église. Et de dire que c'est à mettre au placard ce que font les trois quarts des théologiens aujourd'hui. Ce regard-là, on le met au placard parce que ça ne correspond plus à la mentalité du temps. Vous voyez, ce modèle-là est-il lié à ma conceptualisation actuelle du rapport humain dans une... du rapport structurel tel que l'Église me l'a donné. Je pourrais absolument pas être clair par rapport au reste. Vous voyez, que me dit ce schéma fondamentalement ? Premièrement, l'Église, je la reçois. Et je la reçois de qui ? Ben, je la reçois de l'autorité divine. Donc, vous voyez, c'est important de comprendre que quand je reçois quelque chose, on n'est pas dans le système du chauffage central, vous voyez. Plus le tuyau est long, plus la chaleur se perd. Et c'est vrai, on pourrait se dire, bon, alors, on est d'accord, vous voyez, sur l'idéal de la première communauté humaine. Première communauté chrétienne, c'est extraordinaire. Un seul cœur, une seule âme. Ils s'aimaient. Oh, ils vendaient leurs biens pour le bien des autres. Non, mais c'est extraordinaire, cette histoire. Vous voyez, voilà. Là, on est au point de vue, vous voyez, on est dans la source historique, la première communauté humaine. Elle était géniale, cette communauté. Allez, d'une façon nostalgique, retournons à la communauté fondamentale. Pourquoi ? Parce que nous imaginons, et ça c'est inscrit en nous, qu'avec le temps tout est perdu. Pensez au système de chauffage, hein, ça c'est... Et j'ai un problème très, très important dans mon prieuré, avec un problème de déperdition de chaleur. Ça me fait penser à l'Église. Une autre manière de regarder la révélation. On imagine que regarder la révélation, vous voyez, on a une ligne droite, et là il y a le Christ... Et puis bon, ici, il y a nous. Le but, c'est de retourner là. Ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on n'est pas capable d'intégrer le fait que si Dieu se donne au point de départ, c'est qu'il se donne aussi actuellement. Vous voyez, ce sorte de regard historique, vous voyez. Mais pensez aussi à notre façon de méditer l'Évangile. À notre façon de prier, on est tout le temps comme ça. À notre façon d'aborder les auteurs spirituels. On dit, bon, il arrive au... Et ça, c'était la charnière, bon, style la spiritualité française, bon... Je crois que c'est important de voir qu'on n'est pas très clair sur notre manière de regarder l'histoire du salut. Et donc, on n'est pas très clair sur notre manière de regarder l'Église. Parce que vous comprenez... Si on doit être unis à la source en revenant à l'élément premier, vous comprenez qu'on est mal barré. parce que je suis désolé, vous l'avez sûrement constaté, mais on est dans une réalité qui est autre que l'an zéro. Vous n'avez pas remarqué ça? Et puis extraordinaire, les conflits de génération. Vous voyez, en 40 ans, on a fait un bond qualitatif extraordinaire au point de vue des sciences. Et regardez la réticence qu'il y a dans les mentalités de faire le lien entre la culture dans laquelle nous sommes et l'Église. Et ce qu'on voudrait, nous, c'est... Voilà, la première communauté chrétienne, elle est là. Voilà, ça, c'est super. On est avec Jésus. On s'aime. On va élever des chefs dans le Larzac. Et puis voilà, on est bien. Vous voyez, je crois que c'est intéressant de voir que là, on a vraiment une conversion de l'intelligence à faire. Vous voyez, le rapport à Dieu qui constitue l'Église, c'est un rapport immédiat. Ce n'est pas un rapport où je vais remonter dans le temps, vous savez, alors le fameux film, hein, Couloir du temps, où je vais remonter dans le temps pour faire en sorte que, ça y est, je suis dans la dite Église constituée par Jésus. Et puis le deuxième aspect, c'est de voir que, vous voyez, tout le devenir de la communauté chrétienne, ben, ce devenir, il est sous l'inspiration de l'Esprit-Saint aussi. Vous voyez, je crois que c'est important parce que ça réclame le réalisme et non plus le rêve. On a tous un rêve de ce que devrait être l'Église. Eh bien, je suis désolé, vivons déjà dans ce que nous sommes et on verra que le rêve, il n'est pas réalité. On aimerait... c'est extraordinaire. Si mon curé pouvait être comme ça, eh bien, il ne l'est pas. Je suis désolé, mais bon. Alors, soit je vais aller voir ailleurs, ce que l'on fait les trois quarts du temps, soit je le reçois aussi comme il est. C'est ça aussi le mystère de l'Église. Alors c'est vrai que c'est un mystère pas très invisible, mais n'empêche que c'est une véritable réalité. Vous voyez, essayez de réfléchir à ça pendant ce week-end. Vous voyez, la façon dont on comprend notre rapport à Dieu. Prenons un exemple, on va lire l'Évangile. On lit l'Évangile, alors on va se retrouver. Jésus sur la montagne, proclamant les béatitudes. En plus, si on était en Terre Sainte, vous voyez, ça nourrit encore plus l'imaginaire. Alors là, on s'imagine vraiment les lieux tels que c'est. Et puis, on est parti, on se retrouve avec Jésus proclamant les béatitudes. Vous voyez ? Et nous, qu'est-ce qu'on veut rejoindre ? C'est Jésus qui parle au moment où il en a parlé. Vous voyez ? Lui, ce qui l'intéresse, Jésus, c'est qu'on l'entende maintenant nous parler. Eh bien, ça peut être au fond d'une grotte, ça peut être sur le mont Sinaï, où on veut, ça peut même être dans une cellule à Rimont, il parle. Le problème, de temps en temps, il faut le laisser parler.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit.